Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, de l'éloquence dans la curiosité. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes avocat, professeur d'art oratoire à Sciences Po et HEC. Alors mardi prochain, Laurent Ruquier présente le grand oral en prime sur France 2. Ça met en compétition 12 candidats qui ont des profils très différents. Ils vont s'affronter autour d'épreuves. Donc moi, je ne vais pas y participer, vu comment je m'exprime là à l'instant. C'est quoi de l'éloquence? C'est quoi l'éloquence?
L'éloquence, c'est simplement la capacité à plaire, à émouvoir et à convaincre par la force de sa parole.
Est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'avoir de l'éloquence et de bien parler?
Il y a une part de don, il y a des gens qui sont prédisposés un peu, mais comme pour toute chose, il y a des gens qui sont prédisposés pour le piano, pour la peinture, mais ça se travaille aussi. Même si on a un petit don, il faut le travailler, comme un pianiste qui fait ses gammes. Et de toute façon, une parole simple, claire et convaincante, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
Alors, vous êtes avocat et la première chose qui m'a marqué quand vous êtes rentré dans ce studio, c'est votre voix qui est posée, qui est forte, qui est puissante. Est-ce que vous l'avez travaillée?
Alors non, pas du tout, à tel point que quand je donne des cours d'art oratoire, je confie à un coach vocal le soin de faire le cours sur la voix, parce que c'est un continent en soi, les résonateurs. Et après, l'important, c'est peut-être pas la voix en elle-même que la capacité à la moduler, c'est-à-dire moduler le débit et moduler l'intensité. Après, la voix, il y a quand même une part de don.
Et ben voilà, on va explorer votre voix, nos voix, et puis revivre ensemble de grands moments de l'éloquence à la française. Restez avec nous sur RTL.
I have a dream. Je vous ai compris.
RTL.
Ich bin ein Berliner.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Yes, we can.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
Comme disait le philosophe Timothée Gustave, il faut cultiver la différence et non l'indifférence.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est qui Gustave Machin le...
Je sais pas.
Grand discours, grande voix, l'éloquence est sur toutes les lèvres. C'est d'ailleurs le titre de l'article du Parisien. Aujourd'hui, week-end en partenariat avec RTL et l'on savoure les grands moments de cet art oratoire avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. On vous a demandé de choisir quelques discours qui sont importants pour vous pour bien comprendre pourquoi un discours marque l'oreille, marque le monde, change le monde même. Vous avez d'abord choisi un discours d'André Malraux. Alors on est en décembre 1964 lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Avant d'écouter de courts extraits, vous allez nous planter le décor. Parce que la mise en scène, elle compte aussi pour le discours.
Oui, bien sûr, vous l'avez dit, on est en décembre et on est en plein air. Place du Panthéon, à Paris, il fait froid, il y a du vent. Et André Malraux est emmitouflé dans un manteau et ses feuilles volent au vent et l'empêchent quasiment de les tenir sur le pupitre. On a De Gaulle et l'ensemble du gouvernement qui sont sur les marches du Panthéon, donc juste derrière André Malraux. Et juste derrière Malraux également, l'essence. Le catafalque de Jean Moulin et à la fin du discours va retentir en fond le chant des partisans.
On écoute un extrait de ce discours d'André Malraux.
Voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom? Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
C'est magnifique, on a choisi quelques passages, on les a évidemment rapprochés les uns des autres, mais cette dernière phrase, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège, pourquoi elle marque les esprits? Pourquoi elle reste dans nos mémoires?
Il y a deux choses dans ce discours, il y a un écrivain et un orateur. D'abord, ouais. Il y a un style inimitable, il y a cette formule, entre ici, comme s'il l'interpellait, comme s'il était vivant face à nous, donc il le fait revivre, il le ressuscite, et puis il y a la prosodie, c'est-à-dire la tonalité et les variations de la voix, on a l'impression d'entendre presque un chanteur, comme une sorte de chœur antique. Et c'est absolument singulier, tellement personnel de la part d'André Malraux.
C'est écrit avec le cœur ou il y a des techniques, il a utilisé des techniques de l'art oratoire, si ces techniques sont, je ne sais pas, codifiées
Oui, alors, il y a une technique, ça s'appelle la prosopopée, en termes techniques, c'est faire parler quelqu'un qui est mort. Donc on lui dit, entre ici, il s'adresse à lui comme s'il était vivant, ça s'appelle... Mais au-delà de la technique, c'est comme dans un plat en cuisine, on peut vous expliquer comment c'est cuit et ce qu'il y a dedans. À la fin, il y a le tour de main du chef et ça, c'est extraordinaire, c'est le talent personnel d'André Malraux.
Et cette voix qui est là, je suis peut-être un peu obsédé par ça, mais cette voix traînante, là, cette façon de laisser durer une syllabe, c'est très particulier.
Bien sûr, c'est-à-dire que c'est pas du tout une parole formatée, il est complètement lui-même, presque dans une sorte de comédie, c'est probablement pas sa voix naturelle, mais il assume complètement cette personnalité de voix.
Bertrand Perrier, vous publiez « La parole est un sport de combat » aux éditions Lattès. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore de grandes femmes ou de grands hommes politiques qui ont comme ça ce talent oratoire ? Vous pensez à qui, par exemple ?
Oui, on a encore quelques-uns qui osent, parce que la parole, c'est d'abord un risque. C'est d'abord le risque de se dire, pas juste dire un message qu'on aurait reçu d'un ministère, d'un élément de langage. Prendre le risque de la personnalité et de se dévoiler.
Celui qui craque et qui dit « La République, c'est moi !» Mélenchon, par exemple. C'est un grand orateur ?
Oui, c'est un grand orateur. Après, ce qu'il en fait, c'est autre chose. Mais techniquement, objectivement, je crois que c'est un grand orateur. Mais il y en a mille autres. Christiane Taubira est une oratrice tout à fait hors du commun.
Quel discours vous a marqué, par exemple, chez Christiane Taubira ?
La rencontre entre un grand orateur et un grand enjeu. Donc, évidemment, si on parle d'un taux de CSG, c'est compliqué, même si on est Christiane Taubira, d'être éloquent. Ouais. Mais quand on parle du mariage pour tous, quand on porte les lois mémorielles sur l'esclavage, par exemple, là, il y a la rencontre miraculeuse entre un grand sujet et un grand orateur qui fait un grand discours.
Alors justement, une rencontre, un rendez-vous entre la cause et l'orateur. En voici un bel exemple dans un instant quand Simone Veil, ministre de la Santé, présente en 1974 à l'Assemblée nationale le projet de loi de dépénalisation de l'IVG. C'est une femme politique qui parle, mais une femme tout court aussi. On décrypte la force de son discours maintenant sur RTL.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
La curiosité.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Est un vilain défaut.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi.
RTL.
Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. » Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.
C'est Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Édouard Baird, dans ce personnage d'Otis qui tient un monologue inoubliable dans Astérix Mission Cléopâtre. On parle éloquence, les secrets, la magie de l'éloquence dans la curiosité. C'est en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui week-end. Bertrand Perrier, je rappelle que vous êtes avocat, professeur d'art oratoire à Sciences Po et à HEC. Vous nous disiez, il y a une part d'innée tout à l'heure dans la voix, dans ce don, mais il y a une part d'acquis assez importante, ça s'apprend l'éloquence.
Oui, ça s'apprend parce que c'est d'abord un combat sur soi-même. La plupart des Français disent être timides. Ouais. Je crois que plus de 40% des Français dans les sondages disent être timides. Et il faut aussi avoir un certain nombre de techniques qui relèvent de la respiration, qui relèvent de la visualisation, qui relèvent aussi de l'exercice quotidien pour surmonter cette timidité.
Est-ce que vous avez un exercice ? Allez, on va dire un déjà, à pratiquer chaque jour pour qu'on puisse travailler notre éloquence et se sentir mieux déjà quand on prend la parole.
Allez, l'idée c'est juste de le faire. Ouais. On peut le faire tout seul, on peut le faire avec des amis, on peut le faire avec des collègues, plusieurs choses. Une réunion, allez, pour une fois, je vais me dire dans les 10 minutes, là, je vais prendre la parole. Il ne se passera pas les 10 prochaines minutes sans que je prenne la parole. Et puis, si je suis vraiment tout seul, allez, je prends dans l'actualité un fait qui m'a choqué, qui va marquer, qui m'a surpris, et je fais une petite chronique radio. Si j'étais à RTL, qu'est-ce que je dirais le matin pour faire un petit édito ? Mais oui, plutôt que de garder vos écouteurs et d'écouter peut-être même Lady Gaga si vous aimez ça. Mmh. Essayez d'enlever vos écouteurs, mettez-vous à l'écoute du monde et dites-vous, voilà, qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce qui m'a amusé, qu'est-ce qui m'a éveillé et qu'est-ce que je dirais si je devais dire en 3 messages ce que j'en ai pensé à RTL ?
Moi, il y avait un exercice que je faisais, mais il fallait que je reste quand même concentré sur la route. Quand j'étais en scooter, souvent, je m'imaginais en train de commenter ce qui se passait dans la rue.
Mais bien sûr,
et c'est une façon de travailler
son improvisation. Mais parmi les très grands orateurs, il y a les commentateurs sportifs. C'est quand même des grands magiciens de la parole aussi.
On est le 26 novembre 1974. Simone Veil, ministre de la Santé, présente devant ses collègues députés à l'Assemblée nationale le projet de loi de dépénalisation de l'IVG. De l'avortement, on écoute un extrait de son discours.
Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Pourtant, d'aucuns s'interrogent encore. Une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire ? Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique.
Bertrand Perrier, Simone Veil qui dit « ministre de la Santé, femme et non parlementaire », elle commence comme ça. C'est une figure du style. Pourquoi c'est fort ?
C'est fort parce que c'est une figure de style très caractéristique. C'est ce qu'on appelle la captation de bienveillance. C'est-à-dire au début, c'est capter l'attention de ceux qui vont vous écouter par l'enjeu et par l'humilité. Je le fais avec une pleine conscience de la gravité de l'enjeu. Et moi, je suis pas parlementaire, mais je suis une femme et j'ai donc pleine légitimité pour en parler. Donc, elle a planté le décor.
Ensuite, elle dit pourtant, d'aucuns s'interrogent encore. Une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire ? Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là du discours ?
Alors là, elle fait deux choses. D'abord, techniquement, elle fait une question rhétorique, ouais. C'est-à-dire une question à laquelle elle va répondre elle-même dans la suite de son discours. Elle se pose une question à elle-même, ce qui est là encore une façon de ressusciter l'attention. Je me pose une question. Ah, qu'est-ce qu'elle va répondre ? Donc, il y a un effet de curiosité. Et puis, il y a aussi une autre technique qui est la réfutation. C'est très important. C'est réfuter la thèse adverse. Avoir raison, c'est pas seulement avoir de bons arguments, c'est aussi savoir couper l'herbe sous le pied de vos adversaires.
Et quand Simone Veil dit « Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ?» D'ailleurs, elle n'est pas facile à prononcer, cette phrase. Pourquoi elle est très forte ? À quel principe de l'art oratoire elle correspond ?
Ben là, c'est l'image. On est fermé les yeux et il y a l'idée du déni qui vous jaillit effectivement sous le regard. D'abord, elle est très courte, elle est très choc. C'est presque un tweet, en réalité, cette formule. Et c'est très moderne parce qu'elle résume en un mot comme un titre de journal.
Bertrand Perrier, faut jamais... Enfin, on parle d'éloquence et on veut être éloquent parce qu'on a un public. Donc il y a une notion quoi, d'interactivité, il faut garder, capter l'attention du public, toujours s'adresser à lui, ne pas le rendre passif. Est-ce que c'est un élément important ça ?
D'abord, il faut prendre en compte le public dans ce qu'on va dire. On ne s'adresse pas à une foule de parlementaires comme on s'adresse à une foule d'auditeurs d'RTL. Donc il faut adapter son discours à ceux qui vont vous écouter. Et dans l'instant, bien sûr, c'est ça qui rend le regard incroyablement puissant dans l'art oratoire. C'est pas seulement une voix, c'est aussi un regard. C'est parce qu'on se regarde en ce moment qu'on se dit ça, si je parlais à un miroir, je dirais autre chose.
La parole est un sport de combat, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Lattès. Tiens, j'aimerais bien qu'on dise un mot des sportifs, parce que les sportifs, quand on les interroge juste après un match, c'est désespérant de platitude. Peuvent-ils être éloquents ? Vous allez nous répondre dans un court instant.
14h-15h. Curiosité est un vilain défaut.
Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte.
Sur RTL.
Il y a des moments où il est dit dans la parole. Les morts vous écoutent!
Et ce grand moment d'éloquence dans la curiosité, on est en 92. Robert Badinter est alors président du Conseil constitutionnel. Pourquoi est-ce qu'il a honte, Bertrand Perrier ? De quoi il a honte ?
Il a honte parce que François Mitterrand, président de la République, vient d'aller au Veldiv pour la première fois. Et on sait le passé de François Mitterrand, il est hué par une partie de la foule.
Mitterrand à Vichy, c'est ce qu'on entend ?
Mitterrand à Vichy, Mitterrand à la Francisque et Robert Badinter ne supporte pas. En réalité, c'est un discours qui n'est pas du tout prévu. C'est un discours qui est totalement improvisé. Et il monte à la tribune pour tenser ceux qui sifflent François Mitterrand.
Et d'ailleurs, on peut revoir ce passage sur Internet. Il a une gestuelle, Robert Badinter.
Ah, il les pointe du doigt.
Il les pointe du doigt. Il y a son bras comme ça qui part. Il a les cheveux au vent. La posture, elle est très importante aussi dans le discours, la gestuelle.
Mais bien sûr, le langage, c'est d'abord un corps qui parle avant d'être des mots. Et on sait que dans la force de conviction d'un discours, 60% passe par le geste, la posture, le langage dit non-verbal. Donc c'est très important. Et effectivement, Badinter est très signifiant dans son langage. En fait, il pointe. sent une colère à la fois sourde mais profonde.
Robert Badinter, qui est aussi connu pour un discours qui lui a été longuement préparé, écrit à la virgule près quand il prononce son discours pour l'abolition de la peine de mort. On est le 17 septembre 1981.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés, je vous dirai pourquoi, est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort.
Bertrand Perrier, quel est le coup de génie de Robert Badinter dans son discours?
C'est-à-dire qu'en fait, sous le ministre affleure l'avocat, et on voit que cette mort-là, il l'a vécue lui-même puisqu'il était l'avocat de Bontemps et qu'il l'a donc accompagné à la guillotine et qui sera par la suite l'avocat de Patrick Henry qui échappera à la guillotine. Mais effectivement, il vit dans sa chair l'absence d'effet dissuasif, puisque Patrick Henry, qui va commettre un crime au moment où Buffet et Bontemps sont jugés, réclame la mort.
Donc un bon discours, c'est quand on parle de soi aussi.
Mais bien sûr, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Et chez Robert Badinter, c'est l'expérience.
Bon, et pourquoi les sportifs sont si nuls alors? Pourquoi ils sont pas éloquents?
Mais parce qu'ils ont souvent pas de message à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à part je vais faire de mon mieux, ou je ferai mieux la prochaine fois, ou je joue pour l'équipe? C'est ce qui fait que Kylian Mbappé est une sorte d'énigme parmi les sportifs, puisqu'il arrive, lui, à développer un vrai langage autonome et personnel.
Il fait passer des messages, donc il faut qu'il y ait du contenu pour être
mais
éloquent.
Oui, c'est d'abord un message, la parole.
Et ben, ça tombe bien, parce qu'on vous retrouve en plus mardi prochain à 21h dans le prime de Ruquier, Laurent Ruquier sur France 2, le grand oral. Vous êtes dans le jury, on peut aussi vous lire La parole est un sport de combat chez Lattès, et puis L'éloquence sur toutes mes lèvres, sur toutes les lèvres, pardon.
Oh bah sur les vôtres aussi, il y en a.
C'est le titre, c'est magnifique.
C'est dans le Parisien aujourd'hui.
Bah voilà, et c'est un très bel article de Ségolène Barbé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.